Félicien César David est né à Cadenet le 13 avril 1810. Sa mère, Marianne Françoise Arquier, meurt peu de temps après sa naissance. Son père, Nicolas David, est orfèvre de profession. C'est un ancien colon qui revient de Saint-Domingue et c'est un violoniste amateur. Alors qu'il n'a que 5 ans, le père de Félicien meurt. C'est la sœur de Félicien David qui le recueille et qui assure son existence. David entre à la maîtrise de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence, où il apprend le solfège, le chant et les rudiments de la composition, sous la direction de l'abbé Michel et de Marius Roux. Il est entré dans cette maîtrise parce qu'il a été remarqué par Garnier, premier hautbois de l'orchestre de l'Opéra de Paris. L'enfant David possède une très jolie voix, et il serait dommage de ne pas exploiter ce talent. À Aix, il apprend à déchiffrer à vue. Ses professeurs cherchent à tirer toujours le meilleur des enfants qui participent à la chorale. Et Félicien réalise alors des progrès fantastiques. Il commence à écrire des motets, des hymnes, un quatuor à cordes. À l'âge de 15 ans, il entre au collège Saint-Louis d'Aix-en-Provence jusqu'à la fermeture des collèges jésuites en 1828. Il se voit alors contraint de gagner sa vie comme chef d'orchestre, assistant du chef du théâtre d'Aix-en-Provence, puis comme clerc d'avoué, alors qu'il est nommé maître de chapelle de la cathédrale. Conscient des limites de sa formation, il décide d'entrer au Conservatoire de Paris. La musique de Félicien David est très peu enregistrée. En 1991, trois musiciens hongrois ont eu la bonne idée d'enregistrer deux trios de Félicien David, dont je vous propose l'écoute d'un extrait. Nous allons donc entendre le scherzo du troisième trio en do mineur. Thank you. C'était donc le scherzo du troisième trio en do mineur, interprété par Ilona Pruny, Esther Perreni et Tibor Parcani. Voici notre Félicien David à Paris. Un oncle assez avare décide de lui verser une pension de 50 francs par mois. Il a donc décidé de rentrer au conservatoire et pour ce faire, rencontre le directeur, ours mal léché, d'une réputation de grand méchant, Monsieur Cherubini, gloire de la scène de l'opéra et de l'opéra italien. Naturellement, Cherubini, fidèle à ses habitudes, le reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. « Vous ne savez rien faire, lui dit-il. » Mais pourtant, David est admis grâce à quelques protections, dont celle de Garnier de l'opéra. Là, il entre dans la classe d'harmonie de Millau. Pour survivre, il donne quelques leçons de piano à très bas prix et suit les cours de contrepoint de François-Joseph Fétis, l'auteur du Dictionnaire des musiciens, d'orgue avec Benoist, et, grâce à ses leçons, économise suffisamment pour pouvoir prendre des cours avec Reber, qui enseigne d'après Anton Reicha. Puis subitement, alors que Félicien David ne roule déjà pas sur l'or, son oncle lui supprime sa pension. Il enseigne tout et tout ce qui est enseignable dans la musique. Au cours de piano, il ajoute les cours de solfège et les cours d'harmonie. Malheureusement, David est très frustré au conservatoire qui ne lui apporte pas ce à quoi il s'attendait et va bientôt décider de le quitter sans aucun diplôme, ce qui est fort rare pour un musicien qui deviendra plus tard membre de l'Institut. En 1831, il rencontre le peintre Paul Justus qui lui fait découvrir la doctrine saint-simonienne. Félicien David rejoint les saint-simoniens dont il devient en quelque sorte le compositeur officiel. Alors revenons quelques instants sur les saint-simoniens. À partir du Premier Empire, l'industrie connaît en France un essor fantastique. Parallèlement, au début du XIXe, l'idéologie socialiste se développe dans des courants de pensée très différents, religieux ou matérialistes, ou bien athées. L'ampleur et la diversité que prend cette idéologie se révèlent dans les milieux chrétiens par la création de très nombreuses sociétés, comme la Congrégation, avec un C majuscule, association religieuse, qui a été fondée en 1801 à Paris, puis développé à partir de 1814 par un père jésuite nommé le père Ronsin. Le christianisme social, en quelque sorte, se mêle au libéralisme catholique. En 1830, Lacordaire, Lamennais et Montalembert fondent le journal L'Avenir. La société Saint-Vincent de Paul, née en 1833, grâce à Frédéric Ozanam. C'est dans ce paysage intellectuel qu'il convient de replacer le saint-simonisme, mouvement philosophique qui sera pratiquement à l'origine d'une secte, donc. Saint-Simon a publié en 1822 du système industriel. Il y a fait l'apologie de la société industrielle où les producteurs forment l'élite. Et c'est dans cette société des saint-simoniens, menée de main de maître par le père enfantin esprit, que Félicien David trouve la voie qu'il n'avait pas trouvée dans le cadre du conservatoire et commence à trouver la matière qui lui permet de s'affirmer en tant qu'homme et en tant qu'artiste. David a conservé sa foi saint-simonienne jusqu'à la fin de sa vie, et ce mouvement lui a inspiré beaucoup de musique. Ainsi, il écrivit des chants tels « Au peuple » et « Chants de vie » qui ont été réunis dans un recueil intitulé « La ruche harmonieuse » en 1854. Félicien David part pour l'Égypte en 1833. Car en 1832, le gouvernement poursuit le mouvement saint-simonien pour outrage aux bonnes mœurs et association illicite. Le père enfantin est condamné et l'école saint-simonienne dispersée. Voilà David qui avait rejoint la communauté de Ménilmontant, où il avait composé tant de musique pour les cérémonies saint-simoniennes, un peu orphelin. Alors, un groupe de secrétaires du mouvement saint-simonien se réunit, ils sont 24, et décident de partir pour l'Orient pour évangéliser et convertir l'Orient et le Proche-Orient à la doctrine saint-simonienne. Ils embarquent le 22 mars 1833 pour Constantinople, Smyrne, puis Jaffa, Jérusalem et l'Égypte, où, évidemment, ils sont enthousiasmés par la civilisation qu'ils découvrent. C'est un très très grand choc pour Félicien David. Il va rester 2 ans en Égypte, et ce séjour ne s'achèvera qu'avec une épidémie de peste qui fait fuir Félicien David, qui rentre à Marseille en juin 1835. En Égypte, Félicien David compose. Soit il compose des œuvres originales que lui inspire le pays, soit il note des thèmes et des chants entendus çà et là. Les peintres ont des carnets de croquis, les écrivains ont des carnets de dots. Félicien David a son carnet de mélodies. Ces mélodies sont pour lui plus qu'un carnet de dots, un journal de voyage où il consigne impressions et souvenirs. C'est un journal intime dans lequel des passages laissent parfaitement deviner qu'il s'agit aussi d'un parcours intérieur. Il se retrouve lui-même, il revoit son enfance et pense à l'Occident. Thank you. Son voyage n'aura en fait donc duré que un peu plus de 2 ans, mais ce sont ces années qui vont être déterminantes pour son œuvre. Et pour le caractère très particulier qu'on appelle orientalisme, et dont il est un des maîtres en musique. En 1836, Félicien David publie les Mélodies orientales. Il s'agit de 21 pièces, dont 18 ont été rééditées en 1845 sous le titre Brise d'Orient, et 3 autres sous le titre Les Minarets. À leur sortie, ces mélodies n'obtiennent pas un très grand succès. Alors, il y a vraisemblablement 2 raisons pour cela. Une raison très pratique d'abord. Un incendie a détruit les stocks de l'éditeur de Félicien David. Il n'existe plus de partitions imprimées. D'autre part, le public qui apprécie les Orientales de Victor Hugo ou les Pestiférés de Jaffa de Gene Delacroix ne semble pas, outre mesure, attiré par l'orientalisme musical. Les Brises d'Orient et les Minarets possèdent la puissance des charmes orientaux, charmes plutôt doux mais au rythme marqué que Félicien David traduit à merveille. Son écriture ne manque pas de couleur. Pourtant, il n'essaie pas de coller à l'exotisme du Moyen-Orient, car la musique chante naturellement en lui. N'oublions pas que sa formation initiale est une formation de chanteur. Il nous réserve de belles surprises, comme dans cette égyptienne que nous allons entendre immédiatement. Thank you. Nous venons d'entendre jouer David Blumenthal, qui interprétait l'Égyptienne de Félicien David. Évidemment, en écoutant ces pièces, on sourira de leur orientalisme assez peu oriental pour nous aujourd'hui, même si l'on sait que l'orientalisme est au départ un mouvement artistique et en tant que tel ne peut être attaché à la fidèle reproduction d'une réalité. Pourtant, la pièce que nous allons maintenant écouter, le harem, convainc pleinement. Elle arriverait même à nous faire frémir. Et si l'on prête une oreille attentive au rythme et aux mélodies de Félicien David, je vous assure, écoutez bien, l'Orient véritable pointe le bout de son nez. Revoici Félicien David à Paris. Que fait-il ? Il compose. Mais malheureusement, il n'arrive toujours pas à se faire reconnaître du public. Ce n'est que le 8 décembre 1844 qu'il rencontre la notoriété, avec la création au théâtre italien de son ode symphonique, Le Désert. Pénétré des souvenirs sonores et visuels de son voyage en Orient, cette symphonie descriptive déclenche un enthousiasme immédiat. Dans l'année qui suit la création, la symphonie est jouée dans l'Europe entière et son auteur fait une tournée remarquée en Allemagne et en Autriche. Ce désert a initié le goût du public pour la musique orientalisante. Et ce goût se verra prorogé chez des compositeurs tels Ernest Reyer, Charles Gounod, Georges Bizet, Léo Delibes, Saint-Saëns, Éric Satie, Roussel et même Messiaen dans, par exemple, Du Canyon aux étoiles. Ce désert adopte une forme tout à fait nouvelle, la forme du poème symphonique. Chacun des trois mouvements pour soliste et voix d'homme comporte une récitation à son début. Dans chaque mouvement, des scènes séparées décrivent une tempête, une prière à Allah, la caravane, une rêverie du soir et l'appel du muezzin. L'orchestration provoque l'admiration de Berlioz. Il annonce la problématique et l'intérêt pour la problématique de l'unité dans la composition. Comme Berlioz, Félicien David utilise un récitant de la même manière que Berlioz l'a fait pour la suite de la symphonie fantastique, Lélio. En Allemagne et en Autriche, Félicien David rencontre Mendelssohn à Francfort, Meyerbeer à Berlin et même prend part à une célébration de l'œuvre de Beethoven à Bonn. De retour en France, Félicien David essaie de recréer le succès qu'il a eu avec Le Désert et il s'attelle à d'autres ouvrages de même type. Par exemple, un oratorio intitulé Moïse au Sinaï, créé le 21 mars 1846 à l'Opéra. Il écrit encore une ode symphonie de même type que Le Désert, intitulé Christophe Colomb, créé à Saint-Étienne en 1847. Ou bien Le Mystère, l'Éden, écrit en 1848 et créé à l'Opéra. Ce sont trois œuvres qui accordent une large place à l'évocation descriptive exotique et qui laissent apparaître des thèmes d'inspiration saint-simonienne. Malheureusement, de ces trois œuvres, seul Christophe Colomb trouvera une certaine audience. La carrière théâtrale de Félicien David commence peu après, avec l'opéra comique La Perle du Brésil. L'œuvre est créée au Théâtre National, futur Théâtre Lyrique, le 22 novembre 1851. En 1859, Félicien David est joué à l'opéra. Il vient d'écrire un grand opéra en quatre actes intitulé Herculanum. Pour cet ouvrage, il a reçu une subvention et un prix de l'Académie des Beaux-Arts de 20 000 francs, somme alors considérable, qui permet la création de cet ouvrage sur la scène de l'Opéra de Paris. L'opéra représente la fatale éruption du Vésuve et marque une incursion du compositeur dans le style de Meyerbeer. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous, mais en revanche, Lalla Rookh, qui en 1862 se trouve sous les feux de la rampe de l'Opéra Comique, rencontre, quant à lui, un succès tout à fait mérité. David est fait, en 1862, officier de la Légion d'honneur. En 1869, il prend la succession de Berlioz à l'Institut, dont il occupe le fauteuil, et également au Conservatoire de musique, en tant que bibliothécaire, bien qu'il ne possède aucun titre à l'exercice de cette fonction. Après son élection à l'Institut, Félicien David semble renoncer à ses activités professionnelles, à l'exception d'une tournée à Saint-Pétersbourg. Il est profondément choqué par la guerre de 1870 et l'écrasement de la Commune. Il se retire alors de la vie publique, fréquente les villes d'eau, séjourne chez des amis ou surveille avec affection le jardin de sa maison de Saint-Germain-en-Laye, où il meurt en 1876. Il avait passé les dernières années de sa vie avec la veuve de l'un de ses amis, Madame Tasté. Ayant appris que David, toujours pénétré de l'idéal saint-simonien, avait refusé par testament toute intervention du culte catholique à ses obsèques, l'officier chargé de lui rendre les honneurs militaires en tant que membre de l'Institut ordonna le demi-tour de ses soldats. L'incident provoqua une crise politique à la Chambre des députés qui entraîna la démission du ministre de la Guerre, puis, par solidarité, du président du Conseil, Jules Dufour. Thank you.
Thank you.